Que peut la science pour la cité? Que peuvent les femmes pour la science?
France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une heure de savoir en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est sinologue. Bonjour Anne Cheng.
Bonjour Lorraine Bastide.
Anne Cheng, vous êtes docteur en sinologie ou en études chinoises. Depuis 2008, vous êtes titulaire de la chaire intitulée « Histoire intellectuelle de la Chine » au Collège de France. Être professeur au Collège de France est à peu près la plus haute distinction dans l'enseignement supérieur en France. C'est pourquoi c'est un immense honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans Les Savantes. Vous êtes passé par l'École normale supérieure, par l'INALCO ou l'ANGSO, par le CNRS. Votre parcours est celui de l'excellence. Par excellence, vous avez écrit un ouvrage qui fait référence « Histoire de la pensée chinoise », un ouvrage qui est sans cesse réédité, qui a été traduit dans de nombreuses langues. Ce livre est pour vous, je vous cite, « une sorte de manuel transitoire, un outil de culture générale pour donner les moyens à mes concitoyens de se faire une opinion sur cette Chine dont ils savent si peu et sur laquelle on raconte à peu près tout et n'importe quoi ». Vous êtes en quelque sorte une briseuse de mythes sur la Chine, Anne Cheng. Voilà ce que j'ai lu sur Wikipédia à l'article sinologie. Au XXIe siècle, la sinologie est une discipline appelée à prendre de plus en plus de poids, étant donné l'importance économique et stratégique croissante du monde chinois. Est-ce que cette phrase est aussi un mythe à démonter ?
Là, je suis pas du tout sûre que les sinologues prennent une place plus importante. En tout cas, c'est pas ce qu'on constate dans les choix des décideurs politiques, ni même dans les choix universitaires. Enfin, nos doctorants, et là, j'en profite pour faire passer un message quand même vis-à-vis justement de nos décideurs. Nos doctorants ont toujours autant de mal à trouver une place professionnelle dans les études chinoises. Hein. Donc, non, ce dont j'ai l'impression, c'est que la Chine, effectivement, est partout. Vous ne pouvez pas allumer la radio, ouvrir votre poste de télévision, aller sur les réseaux sociaux, tous les médias, sans entendre parler de la Chine. Donc, cette Chine omniprésente, bien sûr, elle pèse de tout son poids économique, ça c'est une évidence. Elle commence à essayer de rouler des mécaniques, enfin sur le plan militaire. Enfin, donc elle prétend supplanter donc les États-Unis comme prochaine puissance, superpuissance mondiale. Ça, j'attends encore de voir. On va voir comment ça va se passer. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et c'est la question que je pose en intitulé de ma leçon inaugurale au Collège de France, c'est la Chine pense-t-elle ? Et c'est une vraie question. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'inquiète.
J'aimerais maintenant vous faire écouter quelque chose.
Tran ! C'est marrant ! Mon docteur s'appelle Tran, tu le connais ?
Bah alors, Bruce Lee ?
Vous parlez super bien français.
Ce qu'il y a de bien avec vous, les Asiatiques, c'est que franchement, vous êtes discret, travailleur, vous faites pas de vagues.
Invisible.
Chut, travailleur.
Tu dois... bien savoir masser.
Sumo, Jackie Chan, Nyakwe, un Oashi.
Si tu veux réussir, faut que tu changes ton nom.
Alors c'est un peu violent, hein, mais c'est un clip qui a été diffusé il y a un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux dans lequel des personnalités françaises d'origine asiatique dénoncent les stéréotypes uniformisants qu'ils subissent, ou pour le dire plus simplement, le racisme. Est-ce que votre démarche s'inscrit dans une logique similaire à celle-ci ?
Oui, enfin, ce que nous venons d'entendre, moi, je l'ai entendu dans mon enfance. Il faut rappeler que moi, je suis née dans la France de l'après-guerre et dans la France de la décolonisation. Et donc, j'ai eu droit à tous les noms d'oiseaux venant des anciens paras d'Indochine, etc. Enfin, donc, vraiment des agressions assez verbales et même quelquefois gestuelles assez violentes. Hein. Et jusqu'à une date relativement récente, je me souviens d'avoir été confrontée à des ricanements quand je donne mon nom, ou même, vous serez peut-être étonnés de m'entendre raconter qu'une fois en allant voter, je me présente donc devant l'urne où je m'apprête à déposer mon bulletin, et l'assesseur me demande « est-ce que vous êtes française ?» Donc, ce sont des choses qui vous arrivent dans la figure, enfin, au moment où vous y attendez
une
violence, le moins.
Oui.
De la même façon, quand j'ai essayé de louer un appartement, on m'a demandé de fournir ma fiche de paye, mon livret de famille, parce qu'on m'a dit vous savez, on voudrait pas que vous débarquiez avec toute votre village. Alors je dis quel village, enfin ma fiche de paye mentionnait très clairement que j'étais professeur au Collège de France, et j'ai sur le moment j'ai pas bien compris la question, et après j'ai compris que on me soupçonnait de vouloir transformer l'appartement en fait en atelier clandestin ou quelque chose comme ça.
C'est
enfin,
bien.
Donc là, vous voyez, enfin, je veux dire, on est toujours exposé à ce genre de choses quand on a un faciès différent, quand on porte un nom qui n'est pas justement Dupont-Durand. Donc ça, il faut s'y attendre à tout moment. Maintenant, ça ne m'empêche pas de me réclamer comme à la fois fille de mes parents chinois, descendant de mes ancêtres chinois, et en même temps fille de la République française, parce que j'ai été formée entièrement à l'école de la République, de maternelle à normale sup, et donc j'ai une dette aussi vis-à-vis de la République. Donc ce genre de réflexion, certes, est très désagréable, mais vous savez, la nature humaine est en général quand même assez médiocre, et je crois qu'on la retrouve aussi en nous-mêmes. Il ne faut pas non plus rejeter sur l'autre toute la bêtise du monde. Mais enfin, justement, tout mon effort tend à rendre cette Chine tellement autre, tellement insondable, tellement fascinante dans, disons, cette adulation positive, mais aussi dans le rejet négatif, enfin, justement, de tout ce qui est péril jaune, Nyakwe, etc., ancien colonisé, tout ça. Enfin, donc, dans les deux sens, je pense qu'il est nécessaire d'ajouter, justement, de la connaissance de l'autre.
Nous allons parler avec vous de votre parcours, de la pensée chinoise et bien sûr de Confucius après une première pause musicale en compagnie de Shannon Shaw, Broke My Own. So just leave me. Avec face à moi Anne Cheng, titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France. Vous êtes sinologue. Qu'est-ce que cette discipline, la sinologie, Anne Cheng? Pour l'un de vos maîtres, Jacques Gernet, c'est répondre à la question « qu'est-ce que la Chine ?» Est-ce que c'est une définition qui peut vous convenir?
Oui, je suis contente que vous évoquiez le nom de Jacques Gernet, qui a été un de mes deux grands maîtres en sinologie en France, l'autre étant Léon Vandermeersch. Il se trouve que Jacques Gernet vient de décéder à un âge très avancé, et je profite de cette occasion pour saluer sa mémoire. Avec Jacques Gernet, nous avons eu des discussions assez animées concernant justement la conviction de Jacques Gernet que précisément les Chinois ne s'expriment pas comme nous et par conséquent ne pensent pas comme nous, Européens. Je dois dire que j'ai toujours résisté à cette idée. Même venant de quelqu'un comme Jacques Gernet, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu dangereux ici. Bon, Jacques Gernet, lui, se situe un petit peu dans la ligne tracée par Benveniste, enfin cette relation étroite instaurée entre la langue et la pensée. Certes, je pense que ça vaut peut-être pour, disons, toute la période dite classique, traditionnelle, mais en faire une généralité, ça me paraît un petit peu dangereux. Et donc j'ai eu justement ces discussions où Jacques Gernet en sortait en disant « mais elle a la tête dure, cette petite !»
Mais vous dites souvent que vous faites le pont entre la Chine ancienne et la Chine moderne. C'est deux branches qui sont en sinologie assez séparées. Vous avez de cesse justement de les réunir. Oui. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est que quand la chaire donc de sinologie d'études chinoises est née au Collège de France, elle s'appelle la chaire d'études chinoises en Occident. Et j'ai l'impression que dans la sinologie, il y a vraiment cette idée que c'est le regard de l'Occident sur la Chine qui est aussi autant l'objet de l'analyse que la Chine elle-même.
Oui, alors justement, ça c'est un point sur lequel je résiste beaucoup. En fait, dans ma leçon inaugurale, je dis assez clairement, quand je demande « la Chine pense-t-elle ?», d'abord, il s'agit de situer donc la sinologie, effectivement, comme discipline née dans le contexte des sciences européennes, et donc qui porte ce regard qui se veut scientifique donc sur cet objet Chine. Bon, alors là il y a un premier point de résistance de ma part, et le deuxième point de résistance étant d'actualiser la question de savoir maintenant si la Chine a encore quelque chose à penser et quelque chose à dire au monde. C'est un petit peu désolant de constater que la seule pensée venant de Chine dont on parle, c'est la pensée Xi Jinping, donc je trouve ça un peu limité, hein, pour le moins qu'on puisse dire.
C'est le dirigeant actuel
Chine. Oui,
c'est ça.
Oui, le président
Xi.
Une pensée
qui est très économique, très libérale, en réalité, ça renverrait à cette idée-là.
Oui, enfin bon, et c'est un discours officiel, enfin bon, qui est censé tenir lieu de pensée. Et là, je trouve que la Chine est quand même tombée bien bas. Donc il y a ce double problème. Nous avons d'un côté justement en fait cette habitude de penser à la Chine comme l'autre, comme un objet qu'on peut étudier, et d'autre part en fait la question de savoir comment est-ce que on peut penser à partir de la Chine elle-même. Ouais. Et là bien sûr c'est le travail de certains intellectuels chinois actuels qui essayent de se faire entendre, mais dans une certaine ambiguïté, parce que vous avez des intellectuels qui jouent un peu le jeu du discours officiel, enfin qui vont dans ce sens-là, d'autres qui essayent justement de penser par eux-mêmes, mais qui ont du mal à se faire entendre, parce que, encore une fois, le chinois est une langue qui est pratiquée par à peu près un quart de l'humanité, mais qui n'est pas entendue en tant que telle dans le monde, parce que c'est encore l'impérialisme de l'anglais.
Il y a cette médiation, en fait, qui est toujours nécessaire, comme si vraiment il fallait toujours des émissaires pour ramener la pensée chinoise, l'ouvrir au reste du monde. Et les tout premiers émissaires, si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant une partie de vos cours, ce sont les jésuites au XVIIe siècle. Donc il y avait vraiment une dimension, on ramenait une pensée chinoise qui venait en plus servir des intérêts qui étaient plutôt chrétiens, de façon assez paradoxale. Est-ce qu'on peut dire que les jésuites étaient les premiers sinologues?
Ah oui, tout à fait. Oui, enfin ça, je pense que ce sont eux qui ont un petit peu jeté les fondements de ce qui, au XIXe siècle, est devenu une science. Mais les jésuites sont des médiateurs, en fait, des passeurs en quelque sorte, les premiers. Mais comme vous l'avez dit, pratiquaient cet exercice de passeur dans une optique très déterminée, bien sûr.
Propagandiste, presque.
Oui, enfin, disons qu'ils n'ont jamais complètement oublié oublier que leur but était tout de même de convertir les Chinois à la foi chrétienne. Hein. Donc, alors ils l'ont fait avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup d'intelligence, et en basculant presque, en se laissant presque aspirer, enfin, ouais. du côté de la culture chinoise, tellement ils se sont aperçus que là, il y avait une culture d'une richesse extraordinaire, et c'est donc l'image qu'ils ont rapportée en Europe, mais en oubliant de signaler justement, en fait, tout de même, enfin, tous les aspects négatifs que peut comprendre n'importe quelle culture et n'importe quelle civilisation, tout de même.
C'était un peu le début de la mythologisation ou de l'uniformisation de la pensée chinoise qui a commencé là. En réalité.
Oui, disons qu'en France, nous avons cet héritage voltairien, enfin, ou Voltaire, en fait, s'est emparé justement de cette vision d'une Chine extrêmement civilisée, d'une culture extrêmement ancienne, très morale au fond, qui n'a pas eu besoin justement du secours de ce qu'il appelait l'infâme, c'est-à-dire donc la religion, mais au sens d'une superstition obscurantiste. Enfin, en tout cas, c'était l'interprétation de Voltaire. Et donc, nous retrouvons avec ce paradoxe assez considérable, enfin, de jésuites qui ont fait passer l'image d'une Chine sans religion. Donc, c'est
ouais.
oui, ce qui, anthropologiquement en parlant, est une contre-vérité, naturellement.
J'aimerais qu'on écoute quelque chose maintenant.
Mon intérêt pour l'orientalisme a commencé pour deux raisons. La première raison était immédiate. La guerre israélo-arabe de 1973, qui a été précédée de beaucoup d'images, de débats dans les médias et la presse populaire, on y a dit que les Arabes étaient lâches, qu'ils ne savaient pas se battre et qu'ils seraient battus parce qu'ils n'étaient pas modernes. Et tout le monde a été surpris quand l'armée égyptienne a traversé le canal en octobre 1973, démontrant que, comme les autres, elle pouvait se battre. Cela a été la première impulsion. La seconde s'inscrit dans mon histoire longue. C'est ce sentiment constant de différence entre ma propre expérience d'être arabe et sa représentation.
C'était Édouard Saïd.
Oui, je vais deviner.
Vous l'avez certainement reconnu, vous le mentionnez parfois dans vos écrits. Donc, c'est un chercheur palestino-américain qui a dénoncé notamment la diabolisation de l'arabe et du musulman dans les représentations culturelles, dans un livre culte appelé Orientalisme, publié en 79. Comme vous, il voulait remédier à une ignorance. Vous reconnaissez dans les mots qu'on vient d'entendre ?
Oui, alors effectivement, je crois que nous avons toute une génération qui a été confrontée justement à cette espèce de bombe qu'a été l'orientalisme d'Edouard Saïd, et particulièrement ceux qui travaillent justement en fait sur ce que l'Occident a appelé l'Orient, enfin bon, comme justement vraiment à la fois l'autre, mais aussi l'ennemi, le péril, disons ce grand écran à fantasmes. Alors, j'ai eu souvent l'occasion de rappeler que l'Orient dont parle Édouard Saïd, c'est l'Orient immédiat, c'est-à-dire l'Orient proche, ce qu'on appelle le Proche-Orient, ou le Moyen-Orient, qui est représenté effectivement dans ce que vient de dire Édouard Saïd, dans la mentalité du 19e siècle, comme l'oriental perfide et peureux, etc., et qui maintenant est devenu l'Orient violent.
Ouais. Hein.
Disons, les Arabes sont représentés comme congénitalement violents,
menaçants,
c'est le grand Satan, etc. Bon, par opposition à l'Orient extrême, qui lui serait en fait une espèce de d'autre, mais consensuel, lisse, un extrême Orient fait de calme, de volupté et de prospérité. Hein, bon, alors nous avons ici deux images qui sont aussi caricaturales l'une que l'autre. Je rappellerai toujours que le Japon, qui se présente actuellement comme tellement esthétique, esthétisant, etc., est quand même, enfin, une des puissances militaires, enfin, qui a quand même détruit une bonne partie du monde pendant tout la première moitié du XXe siècle. L'Inde, qu'on représente comme tellement pacifique, qui non violente, etc.
La patrie du yoga.
Oui, la patrie du yoga, n'est-ce pas? Donc, on entend parler justement, enfin, de ces mouvements de masse extrêmement violents, de ces attaques, contre les musulmans, etc. Enfin, et la Chine, de la même façon, cultive une amnésie, notamment concernant donc le passé proche. On oublie enfin toutes les violences qui ont été commises en Chine même, enfin pendant la révolution culturelle, donc par des Chinois sur d'autres Chinois. Quant au massacre de Tiananmen, donc du 4 juin 1989, on prétend que ça n'a jamais existé. Donc voilà. Donc là, je pense que les historiens ont une responsabilité justement pour restaurer la mémoire de ces faits contre ces visions extrêmement généralisantes et réductrices. Au fait. Ouais.
Dans votre leçon inaugurale, vous rendez hommage à vos maîtres, aux grands sinologues qui vous ont précédés. Mm-hmm. Donc vous citez Édouard Chavannes, Paul Pelliot, Marcel Granet, Henri Maspero, Paul Démiéville. Excusez-moi, c'est un petit biais personnel que j'ai, mais je ne vois que des noms d'hommes. Est-ce que la sinologie est dominée, comme beaucoup d'autres champs universitaires, par les hommes?
Oui, tous les noms que vous citez sont, à part Paul Demiville qui a occupé la chaire au Collège de France à partir de l'après-guerre, mais disons que pendant, la sinologie a été inventée comme une science donc d'hommes, occupée uniquement par des hommes, notamment dans des institutions de prestige comme le Collège de France.
Où les femmes n'étaient pas autorisées, oui, c'est ça, jusqu'au début du XXe siècle.
Exactement, le Collège de France en fait a eu sa première chaire féminine très tard, hein, donc, et encore actuellement, et là j'en profite aussi pour faire passer un message, actuellement au Collège de France nous sommes péniblement 8 femmes sur à peu près une cinquantaine de chaires, hein, donc il y a encore des efforts à faire, hein. Je me souviens encore de, puisque vous parliez de Saïd, enfin de la visite de Noam Chomsky au Collège de France, qui disait mais moi à MIT je suis entourée il y a une parité des genres que je ne retrouve pas du tout ici, et donc Dieu merci ou Bouddha soit loué, donc actuellement la sinologie telle qu'elle est pratiquée en France est quand même représentée de manière à peu près égale, enfin par hommes et femmes.
D'ailleurs je voulais mentionner, hein, dans l'ouvrage que vous avez dirigé en 2007 je crois, La pensée en Chine aujourd'hui, il y a des sinologues femmes, hein,
bien
que
sûr,
vous avez dans cet ouvrage, donc on va les citer. Viviane Aleton.
Oui, qui n'est plus de ce monde, mais enfin, oui, qui est décédée récemment.
Passionnant texte sur la langue, hein, Elisabeth Su et Karine Chemla.
Oui,
notamment.
Oui. Elisabeth Su, excellente spécialiste de médecine chinoise, et Karine Chemla aussi, grande mathématicienne, spécialiste des mathématiques chinoises, oui.
Donc il y en a, s'en réjouit. On va faire une deuxième pause.
Magnifique. Les ratés.
le flou artistique. Tu te fais volontiers avoir par ta posture ironique. Toi-même tu sais y'a un hic. Tant tu t'appliques à l'erreur, ça n'a pas plus de valeur. C'est tellement chic d'être un loser.
C'était Junior, magnifique.
Lorraine Bastide, Les Savantes, sur France Inter.
Anne Cheng, vous êtes née en France de parents chinois. Votre mère a quitté la France pour retrouver la Chine pendant la Révolution culturelle, si je ne me trompe pas. Et votre père, François Chen, est écrivain. Il occupe le fauteuil 34 de l'Académie française. Il est un poète acclamé qui a connu dans sa jeunesse la guerre et l'exil. Il écrit dans 5 méditations sur la mort. Je suis venu de ce que jadis on appelait le tiers-monde. Nous formions alors la tribu des damnés, des crèves-corps, des crèves-cœurs, porteurs de souffrances et de deuil. Est-ce que ce sentiment de l'exil, il vous l'a transmis dans votre éducation?
Oh que oui.
Oui.
Oui. Oui, oui, enfin, je dois dire que j'ai été, j'ose pas dire bercée, mais un peu bassinée de ça pendant toute mon enfance. Et ça explique sans doute les rapports très compliqués que j'ai avec mon père, et donc partant avec la Chine. Parce que pendant mon enfance, j'avais ce père qui était tout pour moi, puisque j'avais pas d'autres parents, et ma mère qui était partie non seulement au loin, parce que la Chine à l'époque ne faisait pas partie d'un monde globalisé comme elle l'est maintenant, elle était non seulement loin, mais coupée du monde, puisque ma mère a décidé de repartir en Chine exactement en 1966, au moment où commençait la Révolution culturelle. Et donc après, j'ai été sans contact avec elle pendant une bonne dizaine d'années. Je savais plus du tout si elle était encore en vie, ni quoi que ce soit. Donc cette enfance a été, je dois dire, une enfance à laquelle je n'aime pas repenser, parce que c'est pas des souvenirs très agréables, mais peut-être que ça a forgé chez moi une certaine carapace coriace. Enfin, j'ai peut-être une capacité de survie qui s'est développée à cette occasion, parce que je dois dire que quand j'ai perdu mon mari il y a quelques années, ça a été en fait un autre coup extrêmement violent, enfin, dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. D'ailleurs, j'en suis à peine remise vraiment. Enfin, pour moi, la Chine, c'est un peu, au fond, le monde des morts, puisque entre-temps ma mère est décédée en Chine, mon mari est décédé après avoir perdu beaucoup de membres de sa famille aussi par maladie, etc. Donc pour moi la Chine, c'est un peu la terre du deuil, et d'une certaine façon ça prend un petit peu la suite de ce sentiment d'exil que mon père m'a distillé pendant toute mon enfance et mon adolescence,
hein, et dont il a beaucoup beaucoup nourri son œuvre,
oui.
qui se double quand même d'une passion, d'un amour pour la littérature française. Hein. C'est ce qui l'a amené d'ailleurs en France, qui l'a conduit à y rester, à s'y faire une place, la place magnifique qui s'y est faite. Il a réalisé un travail incroyable. Il a quand même traduit en chinois Victor Hugo et René Char. Et vous, en 81, vous avez traduit en français les entretiens de Confucius, donc.
Oui, alors là, c'est
l'aller-retour est intéressant quand même.
Une espèce de chassé-croisée, oui, c'est pendant que mon père faisait ce cheminement, effectivement, vers la terre française, c'est ça qui l'a fait épouser aussi une dame française. Enfin, bon, il a littéralement épousé la France. Enfin, et moi, pendant ce temps-là, j'essayais de renouer avec, au fond, la Chine. Où avait disparu ma mère, en fait. Donc, c'est pas un aller-retour, c'est plutôt une espèce de divergence ici, en fait.
Il y a presque une provocation, j'ai envie de dire. Vous avez 25 ans, vous traduisez Confucius, c'est quand même, on a du mal à imaginer une pratique plus impressionnante que ça.
Oui. Enfin, bon, là, c'est le genre de choses qu'on fait dans l'inconscience de la jeunesse. Hein.
Oui.
D'ailleurs, un de mes autres maîtres, Jean-Pierre Dieny, m'avait écrit quand il avait reçu mon travail, m'avait dit c'est très crâne de traduire, de s'attaquer aux entretiens de Confucius à votre âge. Mais d'un autre côté, je pense que si je l'avais pas fait à cet âge-là, je l'aurais jamais fait. Et pour moi, ça a été quand même tout à fait fondateur, parce que c'est là que j'ai fait mes premières armes précisément en sinologie, et c'est quand même très formateur, enfin, de s'attaquer à un texte comme ça.
Oui, j'imagine. Oui. Il représente quoi pour vous ce texte, d'ailleurs? Comment vous avez fait sa rencontre?
Disons que quand on essaye de voir un petit peu ce qu'il y a comme texte fondateur de la culture chinoise, on tombe forcément là-dessus, ou bien, vous savez, je parle dans ma leçon inaugurale du tiercé gagnant, donc
ouais.
Vous avez le Laozi, ce qu'on appelle en français le Tao Te King, donc qui est attribué à ce maître taoïste, vous avez les entretiens de Confucius, et vous avez ce qu'on appelle en français le King, c'est-à-dire donc le livre des mutations. Donc ça, c'est le tiercé gagnant qui a fait l'objet d'une multitude de traductions. Et donc, quand vous commencez dans la carrière,
c'est un peu la base, quoi.
C'est un peu la base. Et d'autre part, je trouvais que c'était là aussi le moyen de renouer au-delà de mon père, qui lui se positionne plutôt comme taoïste, renouer avec justement la culture de mon grand-père. Au-delà de la génération paternelle, enfin, parce que mon grand-père était un peu l'incarnation justement de ces serviteurs de l'État confucéens, donc très intègres, avec une très forte armature morale, etc., et avec une conviction justement ancrée, enfin, en lui, justement, de cette croyance dans l'éducation, parce que c'est au fond le tout premier mot des entretiens de Confucius, hein, apprendre, ça c'est vraiment le mot clé de l'enseignement confucéen, c'est-à-dire que cette idée que on n'est pas humain par donné ou par acquis, on se fait soi-même humain en apprenant et en apprenant sans cesse, on n'a jamais cessé d'apprendre.
On n'est pas humain, on le devient, je trouve
ça exactement, oui, tout à fait. Oui.
Vous parlez d'éducation et dans votre leçon inaugurale au Collège de France, donc, que vous avez déjà mentionné, vous dites sans vouloir donner dans l'hymne à l'école de la République, j'ai une dette envers elle. Qu'est-ce qu'elle vous a donné, l'école française, qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs?
C'est pas tellement qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs, c'est plutôt que d'une part, j'avais pas trop le choix. Je pense que l'école de la République et notamment mon passage à Normale Sup, qui là aussi n'a pas été choisi. Enfin, je me suis retrouvée là parce que j'ai eu un parcours de bon élève, et ce parcours de bon élève, je pense que je l'ai eu pour essayer d'attirer l'attention de mon père. J'ai toujours allé savoir pourquoi. Enfin, donc je me suis retrouvée à Normale Sup, et là, je pense que qui est une des incarnations de l'école de la République, au fond, cette élite méritocratique qui est très chinoise, au fond.
Ouais.
et donc là, je dois dire que c'est là peut-être que je me suis forgée cet esprit critique, qui est véritablement le propre de l'éducation qu'on est censé recevoir à l'école de la République. Et ça, c'est quelque chose qui a été non seulement formateur, mais salvateur pour moi. C'est-à-dire qui m'a permis justement de ne pas être complètement englouti dans la puissance de l'influence paternelle. Parce que sinon, là, j'aurais été complètement englouti et j'aurais eu beaucoup de mal à exister, je crois.
Donc l'esprit critique, si on devait retenir...
Oui.
Alors, en 97, donc, votre livre « L'histoire de la pensée chinoise » sort. On va reparler de Jacques Gernet, votre maître. Il a écrit à son sujet un article que j'ai eu l'occasion de lire en préparant l'émission, où il dit ceci à son sujet. « Même les lecteurs de langue anglaise, pourtant privilégiés depuis longtemps par rapport à nous, n'ont rien de comparable à ce livre savant et accessible, fruit d'un immense effort, clair et intelligente initiation à un univers mental qui nous reste encore largement étranger. » Quand on lit ça, quand on sort un livre et que son maître absolu a un tel accueil dithyrambique pour lui, est-ce qu'on se dit « ça y est, j'ai réussi ».
Non, pas du tout. Enfin, là, je dois dire que il m'est peut-être arrivé de lire ce texte, mais je m'en souvenais absolument plus.
Je l'ai gardé, je vous le donnerai si vous voulez.
Merci. Non, là, vraiment, ça m'émeut profondément. Enfin, d'autant plus que je m'apprête à prononcer un hommage à Jacques Gernet au Collège de France. Ce qu'il ne dit pas, c'est la part qu'il a prise dans le fait de rendre ce mastodonte indigeste lisible. Je dois dire qu'il aurait été peut-être content d'apprendre que, bon, alors entre-temps, le livre a été traduit dans pas mal de langues, mais tout récemment, il est sorti en traduction chinoise. Et apparemment, il est en train de produire un certain effet en Chine, totalement inattendu. Et donc, d'une certaine manière, on a l'impression non pas que j'ai réussi, c'est pas ça, mais qu'il y a, une boucle qui se boucle là.
Bien sûr, enfin,
d'autant plus que j'ai mis une sorte de dédicace en exergue à la mémoire de mon mari, donc d'une certaine façon il n'est plus là, mais c'est une façon de faire revenir ce livre dont il a été évidemment témoin, enfin, de toute sa conception. et mes filles également, enfin, qui ont grandi malgré lui, hein, parce que je me souviens d'avoir signé le contrat avec le Seuil, donc en ayant ma fille cadette encore dans les bras, enfin, donc c'était une gageure absolument un peu folle, mais tout ça, c'est le résultat d'une aventure humaine.
Donc vous enseignez au Collège de France, qui est une institution porteuse d'une histoire et de valeurs assez unique, assez incroyable. Il y a une vraie mission de service public, hein, dites-vous souvent. Tous vos cours et tous les cours du Collège de France sont accessibles en vidéo sur Internet et en podcast. Je m'en suis délectée personnellement. Ça correspond vraiment à l'état d'esprit de l'institution, partager avec le plus grand nombre les connaissances qui y sont divulguées. J'ai été interpellée par votre façon de toujours introduire votre premier cours par quelques mots personnels. Et j'aimerais, si vous me le permettez, qu'on écoute maintenant un court extrait de votre première leçon de l'année 2015.
J'ai l'impression que cette saison hivernale, qui nous fait tant apprécier le confort et la chaleur de cet amphithéâtre navarre, est toutefois marquée depuis plusieurs années par des déflagrations violentes. D'abord, une déflagration sur le plan personnel, avec la perte de l'homme avec qui j'ai partagé 30 années de ma vie. Et puis ensuite, la déflagration sur le plan collectif, des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère en janvier dernier. Et maintenant, celle il y a un mois, des attaques terroristes et des tueries aveugles dans Paris. Alors, je vous avouerai que ces apocalypses à répétition n'ont pas manqué de bouleverser ma vision de la vie, qui m'apparaît désormais dans toute sa précarité et sa fragilité, et qui semble rendre futile et vaine toute volonté d'accomplir quoi que ce soit.
Est-ce que vous trouvez dans l'enseignement, Anne Cheng, une sorte de consolation existentielle?
Disons que là aussi, je n'ai pas trop le choix. Je dois dire que l'obligation de continuer mon enseignement au Collège de France est ce qui m'a obligée à rester debout après la disparition de mon mari. Je dois dire que tout juste après son décès, je suis devenue complètement aveugle, très littéralement. Hein. J'ai perdu la vue pendant plusieurs semaines. Probablement parce que je l'ai vu mourir, et donc là il y a quelque chose que je ne pouvais plus voir et qui m'empêchait de voir, et donc là j'ai bien cru que j'allais tomber dans le grand trou noir de la dépression à tout jamais, parce que je me suis dit, si je ne peux plus lire ni écrire, là je suis complètement finie. Hein. Bon, heureusement ma vue est revenue, et je me souviens d'avoir repris mes cours coûte que coûte avec des lunettes noires, parce que mes yeux étaient très sensibles à la lumière, et en ayant imprimé mon texte en police 48, enfin pour arriver à le lire. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça, parce que sinon je suis finie à tout jamais. Donc d'une certaine manière, je peux dire que je suis reconnaissante au Collège de France et à la pression énorme que représente l'enseignement au Collège de France de m'avoir obligé à rester debout, coûte que coûte. Mais je sais qu'aussi, en même temps, que tout ça est très impermanent. D'une certaine manière, je deviendrais volontiers bouddhiste s'il n'y avait pas le problème que je suis très carnivore aussi. Donc là,
pas compatible.
Oui, c'est ça. Donc là, je tiens avec cette obligation de donner mes cours au Collège de France et un steak de temps en temps.
Nous venons d'écouter Lassa de Cara a la Pared. Alors pour cette troisième partie d'émission, Anne Cheng, je voulais qu'on parle de celui qui a fait l'objet de votre cours au Collège de France pendant 6 des 9 années où vous y avez enseigné, Confucius. J'ai fait le test autour de moi. C'est une figure mythique et assez floue qu'on imagine tantôt empereur, tantôt penseur, tantôt prophète. Alors pardonnez cette question qui fait un peu la sinologie pour les nuls, mais qui était Confucius ?
Oui, en réalité, empereur, penseur, prophète, il a été un peu tout ça à la fois, en fait. Et aussi un peu selon les périodes. En Chine, on en a fait effectivement une sorte d'empereur sans les insignes de la souveraineté, de la royauté. On en a fait aussi une sorte de sage quasi divinisé. Donc, il est passé par tous les rôles et par toutes les interprétations. En réalité, oui, il y a de quoi se demander encore maintenant. Enfin, qui était Confucius au fond? D'abord, Confucius, il faut quand même rappeler que sous cette forme, c'est une latinisation opérée par les jésuites de la désignation chinoise Kongfuzi, qui veut dire maître Kong. Kong étant son nom de famille. Donc vous avez actuellement sur son lieu de naissance, qui est dans la province actuelle du Shandong, donc à l'est de la Chine, un endroit qui s'appelle Chufu, et là tout le monde s'appelle Krong, quoi. Enfin, et ceux qui ne s'appellent pas Krong ne font pas d'affaires. Hein, je veux dire, bon. Alors donc Krong, ce maître Krong, c'est quelqu'un qui aurait vécu donc dans cette partie orientale de la Chine. Entre le 6e et le 5e siècle, donc on lui a attribué des dates conventionnelles, donc 551 à 479, ce qui, comme par hasard, en fait, en ferait un contemporain plus ou moins donc du Bouddha, des pré-socratiques, etc. Et donc, ce qu'il a intégré donc dans ce que Karl Jaspers appelait l'âge axial, hein, donc entre ce 6e et ce 5e siècle dans le monde entier, où vous avez l'impression que dans toutes les grandes civilisations, il se passe quelque chose de déterminant. En réalité, quand vous regardez les traces qui nous restent de ce personnage, en fait, elles sont très tardives. La première biographie, entre huit paires de guillemets, de ce maître Krong intervient plusieurs siècles après son vivant. Elle est due au premier grand historien de Chine, dénommé Sima Qian, donc dans ses mémoires historiques, où là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une hagiographie, à un récit légendaire, que à une biographie au sens strict du terme. Hein. C'est dans cette soi-disant biographie que on trouve par exemple le récit de la rencontre de ce maître Krong et de Laozi, donc le vieux maître qui serait l'auteur du Tao Te Ching dont nous avons parlé tout à l'heure, qui fait partie du tiercé gagnant. Bien, donc alors ce personnage, on suppose que ce qu'on appelle actuellement les entretiens de Confucius, ce sont les traces orales de son enseignement qui ont été recueillies dans ses entretiens. Alors actuellement, j'aime mieux vous dire que tout ça est un chantier à ciel ouvert.
On n'est plus sûr de rien en réalité.
On n'est plus sûr de rien. C'est bien pour ça que j'ai consacré autant de temps justement à Confucius, parce que j'ai commencé ma démarche au Collège de France en regardant en fait ce qui se passe actuellement en Chine, comment ce qu'on appelle ce revival, avec cet anglicisme qui veut dire donc cette renaissance confucéenne, qui est en réalité une sorte de réappropriation en grande partie donc idéologique donc de ce soubassement confucéen.
Alors la Chine a un rapport un peu complexe avec Confucius, hein. Il y a eu toute une période durant laquelle il était complètement banni en réalité de la pensée chinoise. Mm-hmm. Et aujourd'hui, vous venez de nous le rappeler, il y a vraiment une réapparition de Confucius dans le discours en Chine populaire. Il apparaît comme une icône. Et il sert même, dites-vous, à justifier la montée en puissance économique de la Chine aujourd'hui.
Oui. Alors, ce pauvre Confucius, il est passé justement par toutes sortes d'interprétations, comme nous l'avons dit. Il est devenu tour à tour une sorte de divinité, un empereur, un empereur sans couronne, etc. Au point que les intellectuels chinois moderne l'ont considéré comme représentant justement toute la tradition, toute la société traditionnelle dont il voulait se débarrasser. Donc Confucius est passé par un purgatoire radical pendant en gros toute une bonne partie du XXe siècle, en commençant par le tout début, où la Chine qui à ce moment-là était justement sous le coup des agressions donc des puissances occidentales. Alors quand on dit puissance occidentale, ça inclut paradoxalement le Japon.
Ouais.
Bon, alors donc cette Chine veut absolument donc se moderniser, c'est-à-dire s'occidentaliser. Hein. Et par conséquent, la première chose à faire, c'est de jeter à la poubelle le bébé avec l'eau du bain, hein, c'est-à-dire donc Confucius et tout ce qu'il représente. Le slogan qui prédomine, c'est « Abat Confucius et sa boutique hein. ». Bon, alors là, nous sommes dans un processus justement, enfin, de déconfucianisation, désacralisation, de laïcisation à tout va. Hein, donc c'est un phénomène qui dure pendant toute la première moitié du XXe siècle, de destruction non seulement des structures confucéennes, mais aussi de l'État confucéen, de l'État impérial, mais aussi de toutes les structures religieuses. Hein, les temples taoïstes, bouddhistes, etc. sont laïcisés à tout va. Bon. Et par là-dessus arrive donc après le deuxième conflit mondial donc le régime communiste hein, qui prend le pouvoir donc en 1949 et qui en quelque sorte en rajoute une couche hein, donc qui jette aux orties donc ce qui peut rester justement comme trace de la société ancienne, de la société traditionnelle, et qui connaît un paroxysme justement avec la révolution culturelle, donc là on détruit tout ce qui reste encore. Restait plus grand-chose d'ailleurs. Tout ce qui reste à détruire donc des vestiges de cette ancienne société, on brûle les livres. Là, mon mari en a été témoin d'ailleurs. Et vous avez justement ce contraste extrêmement frappant entre ce qui se passe dans les années 60 et 70 et vous prenez ces mêmes destructeurs, ces mêmes gardes rouges qui à l'époque avaient 20 ans, si vous faites le calcul maintenant ils sont dans la soixantaine, ils sont aux affaires, ils sont au pouvoir et maintenant ce sont eux qui érigent des statues de Confucius partout. Bon, alors là vous avez effectivement ce retour de Confucius utilisé comme icône. Je rappelle que c'est la figure de Confucius qu'on a choisie pour ces fameux instituts Confucius qui se disséminent partout dans le monde. Il y en a plusieurs centaines maintenant partout dans le monde.
Qui servent à diffuser la culture chinoise à l'étranger, en réalité, c'est
non,
ça ?
Qui servent plus exactement à diffuser la propagande chinoise, c'est autre chose.
Sûr, ouais.
Donc, ils sont un peu le bras armé de la propagande chinoise, c'est-à-dire de ce que le pouvoir chinois voudrait faire passer comme le soft power, pour doubler donc le hard power, donc de l'économie et de la force militaire chinoise.
Et Confucius aussi fait son grand retour en Occident. Il est même devenu un argument marketing. On trouve dans les supermarchés des livres qui s'appellent Le bonheur selon Confucius. Je crois même déjà avoir reçu pour Noël un calendrier avec pour chaque page une citation de Confucius comme autant de trésors de sagesse. Est-ce que ça vous hérisse ?
Oui, enfin, écoutez, disons que pas plus que les calendriers, enfin bon, le genre calendrier, vous savez, avec les rugbyman en tenue
c'est
d'Adam.
Quand même un petit peu
bon,
différent.
Enfin, c'est vous savez, bon, on peut mettre n'importe quoi sur des calendriers, ça c'est pas trop le problème.
C'est une vulgarisation extrême quand même d'une pensée que vous venez de présenter comme très subtile.
Mais là,
et
vous venez de faire allusion à un livre qui est dû à une certaine dame qui s'appelle Madame Yutan, donc qui a fait un tabac, si vous me passez l'expression, avec un livre qui est sa lecture donc des entretiens de Confucius et qui est une lecture extrêmement consensuelle, lénifiante et surtout qui va dans le sens du discours officiel justement d'une interprétation donc des entretiens de Confucius comme conduisant à une sorte de d'attitude de soumission à l'autorité, d'obéissance inconditionnelle aux parents, etc. Enfin de soumission à l'ordre établi, alors que Confucius est précisément au contraire, enfin celui qui a toujours résisté, enfin je veux dire qui ne s'est pas laissé engager par n'importe qui et au nom de qui des générations donc de serviteurs de l'État impérial sont venus conseiller l'empereur avec leur cercueil sous le bras, donc en sachant exactement ce qui les attendait, hein, mais par fidélité à leur sens moral, venaient dire en tant que conseiller du prince, venaient dire au prince son fait et ce qu'il pensait vraiment de sa façon d'exercer le pouvoir. Donc là, cette interprétation de Madame Yudan a été à juste titre qualifiée par certains intellectuels chinois comme du bouillon de poulet pour l'âme. Hein. Donc c'est une sorte d'ouvrage qui se présente un peu comme un feel good, un ouvrage feel good, mais qui en réalité flatte dans le sens du poil le discours officiel. Et ça mérite beaucoup plus que le calendrier. Hein.
Mettons qu'on ait vraiment envie de céder à la tendance et de mettre un peu de Confucius dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on garde ? Une phrase, un mot ?
Je pense que c'est le mot à prendre, c'est le tout premier mot. Là, je crois que le message confucéen, ça a été véritablement de perpétuer d'une génération à l'autre cette idée que si nous ne sommes pas constamment en train d'apprendre à devenir toujours plus humains, nous retombons immédiatement dans la brute, dans l'état brutal. Et je pense que les événements récents, toute l'histoire récente, ces événements auxquels je faisais allusion d'entrée de jeu en 2015, sont une manière de nous convaincre de ça. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas constamment en train de tendre vers quelque chose de meilleur, nous retombons immédiatement dans la brutalité.
Merci beaucoup, Anne Cheng.
Merci à vous.
Merci beaucoup, chère Anne Cheng, d'avoir été ma dernière invitée de cette saison des Savantes. Je rappelle que vous dirigez une magnifique collection bilingue, la Bibliothèque chinoise, aux éditions Les Belles Lettres. Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen et préparée par Perrine Malinge. Merci à tous les deux pour ce fabuleux été à la Maison de la Radio. Avec aujourd'hui à la technique, Théo Gomard. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans vos applications podcast où vous pouvez écouter Les Savantes ou encore La Poudre, un podcast produit par Nouvelles Écoutes dans lequel je reçois des femmes passionnantes. Merci à France Inter de m'avoir permis de passer un été passionnant en votre compagnie. Bon après-midi à tous et à toutes, et à bientôt.